إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجع إن شاء الله إلى مواصلة ما كنا ذكرناه فيما قبل في ما يخص بيان أهمية العلم من السنة النبوية، مع كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة، حيث يذكر في الوجه 52 أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. وذكر حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كنا ذكرنا بعض الفوائد من هذا الحديث. دونك ابن القيم إلى سيدي الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء pour celui qui a écouté son hadith, ce qu'il a dit et qui le transmet. Il fait dua pour que son visage soit illuminé. Et ça, c'est une des caractéristiques de ceux qui vivent avec les textes, qui vivent avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal leur donne pour cela sa joie intérieure qui se reflète par cette illumination à l'extérieur. Dans le visage, on sent, avec l'encens, cette lumière. Et ça fait partie du du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du'a bin nadara, et il y a dans le hadith, irshad les musulmans à l'ahmiyat de sama'i qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, et tatbiqi. Et si c'est ce fadl, فقد بالنسبة للإنسان يسمع عن الصحابة الذين سمعوا ونقلوا، فكيف بالذي يسمع ويفهم ويطبق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا هو الأساس، أساس الدين تاعنا. دونك لا 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 سي سي سولا سي جوست بور سولوي كي ا انتوندو الحديث كي لا ترانسمي كيس كو سي بور سولوي كي لا انتوندو كي لا بيان كومبري كي لا براتيكي دون سا في، يعني كيل لو ريزولتا سا سولا ان شاء الله. Et c'est l'objectif du fait de suivre la religion, c'est qu'on soit heureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est le fait d'essayer de courir derrière le bonheur. Hein, ceux qui cherchent derrière, qui courent derrière les plaisirs matériels, ils se trompent de chemin en pensant que le bonheur d'ici-bas, il est derrière le fait de s'accaparer l'argent, de s'accaparer toutes les ces richesses matérielles apparentes. Et ils se trompent de chemin. الذي يبحث عن السعادة وراء الأمور المادية هو يعني يخطئ طريق. الدين هذا ما أنزله الله عز وجل لنا إلا لكي نكون سعداء في الدنيا وفي الآخرة، ولن نكون سعداء إلا في إطار هذا الدين. إلا نتبع هذا الدين، علاش الإنسان يدين؟ علاش الإنسان يأتي للصلاة أو يحاول يعني يتبع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وش الهدف وش المنفعة التي يحصلها في اتباع هذا الدين؟ يتبع فقط هكذاك لأنه يتبع عادات وتقاليد و... لا يتبع هذا الدين مش يكون مش يحقق السعادة تاعه في الدنيا وفي وفي الآخرة. عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الهدف من هذا الخلق عبادة الله عز وجل، والثمرة بالنسبة للذين يعبدون الله عز وجل حق العبادة هو أنهم ينالون سعادة الدنيا والآخرة. السعادة اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان إنسان الذي يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ينقل ما قاله صلى الله عليه وسلم، دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه النظارة، هي تدل على سعادة القلب. الله عز وجل يقول على حال الجنة تعرف في وجوههم ماذا؟ نظرة النعيم. معنى أن النعيم هذا ليحس أو المحل تاعو اللي هو القلب تظهر عليه علامات في الوجه من شدة ما هم فيه من السعادة، تظهر هذه السعادة تظهر حتى في وجوههم. دونك سو كي سون او بارادي سون تيرمون دون ان بونور كي لو ريسونت انتيريورمون اي كي لا اي كي ا ان ريفلي كي اكستيريور سي سكون ابل نظرة تعرف في وجوههم، تي ريكوني سو لو فيزاج لوميناسيون de ceux qui sont heureux de Naïm, de ceux qui connaissent la joie et le bonheur. Et donc, تفلسف فأحسن في فلسفته أو فكر في طريقه وحده أو سمع إلى غيره، ولكن قال سمع مقالتي، لأن نجاتنا وسعادتنا وفلحنا في الدنيا وفي الآخرة يكون بسماع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبتطبيق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. donc dans ce hadith الرسول صلى الله عليه وسلم a bien précisé que ce bonheur n'arrive qu'à celui qui écoute ce qu'il a dit. Il a pas dit celui qui philosophe ou celui qui suit le chemin qui a été tracé par sa pensée ou par son intelligence. Non, il a dit celui qui écoute ce que je dis. Et donc ça, c'est une des bases importantes dans notre religion, c'est qu'on ne suit pas l'Éternel, c'est qu'on ne suit pas ce qu'on veut nous. On suit ce que veut Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le problème, c'est la plus grande des faiblesses qu'on rencontre aujourd'hui dans nos pays. Un pays musulman, on a une appartenance intellectuelle, mais ce n'est pas une appartenance de suivi. On se dit, on est musulman, on suit le prophète, on suit le Coran, on suit la Sunna, et dans beaucoup de questions pratiques qu'on fait dans notre vie, on suit ce qui nous plaît. Pourquoi tu fais ça? Écoute, non, mais je ne peux pas faire ça, ou là je peux faire ça, parce que je considère que ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Tu dis, toi tu es musulman, tu as dit, Ashhadu an la ilaha illa, tu as attesté qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée que celle d'Allah Azza wa Jal, et que le prophète est son messager. Tu dois suivre ce que, c'est la logique de cette shahada, de cette attestation, ce que tu suis, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir du moment où tu as fait cette attestation, on te dit, Kala Rasulullah, quelle est ta réaction? C'est de suivre. C'est pas de philosophie. La majorité d'entre nous, quand on cite un hadith qui ne les arrange pas, ils commencent à philosopher. Tu dis, Kala Rasulullah, tu dis, oui, mais bon, on est en France, on est je sais pas où. C'est dit, l'Azogil, la clé de l'univers, il a envoyé cette religion, elle est valable pour tous les temps. Din hada, alhamdulillah, Rabbul Alamin, tout. Donc, le din hada, l'Azogil, il a envoyé, il est valable au 7e siècle, au 8e siècle, au 30e siècle, tout ce que tu veux. Donc, c'est pas une religion qui a été envoyée pour un temps donné. Donc, le fait d'écouter et de suivre les textes qui sont dans les textes justes qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre la bonne compréhension du Coran et de la Sunna selon le chemin sur lequel étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète et ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum. Donc c'est ça notre chemin du salut, et on ne trouvera pas d'autre chemin de salut que celui-là. Il n'y a pas d'autre chemin. Là où j'ai donné un tarif, les najat ou les khalas, il habite Ibaï, كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح. أيضا الإنسان عليه أن علينا أن ننتبه إلى هذه الأمور وأن نهتم على أن ندوني دونك دو لامبورتونس اسكي دون لو قران و دون لا سنة دو بروفيت صلى الله عليه وسلم اي اون دوفري فيفر افيك. كونت اون دون لامبورتونس ا كيك شوز cette importance, elle se montre et elle se matérialise par des faits qui sont apparents. Celui qui veut, qui se passionne pour voir les matchs de football, il suit, il achète les journaux qui parlent de cela, il achète la télévision qui lui permet de suivre les matchs, et ça montre, ça c'est toute chose à laquelle on donne une importance, elle reflète des signes extérieurs. Hein, si tu donnes importance à quelque chose, ça se voit. Hein, quelqu'un qui aime bien faire le sport, la musculation, tu le trouves bien musclé. Quelqu'un qui aime un petit peu tout ce qu'on aime, ça se voit, ça reflète. Et donc normalement, quand on rentre dans nos maisons, les maisons termoslimines, on devrait trouver les livres du Coran et de la Sunna. On devrait trouver le Coran. On devrait trouver Tafsir ibn Kathir. On doit trouver dans les hadiths Sahih Bukhari, Sahih Muslim, la meilleure explication Sahih Bukhari, Fath al-Bari. Les musulmans devraient tourner, le sujet de leur discussion devrait tourner autour de cela. Mais malheureusement, la faiblesse dans laquelle aujourd'hui, c'est que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Beaucoup d'entre nous, peut-être, ne savent pas ce que c'est Sahih al-Bukhari. Ou beaucoup de hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari, ils ne savent même pas que c'est dans Sahih al-Bukhari. Ils ne savent même pas c'est quoi l'explication, c'est quoi ilm al-Hadith, c'est quoi le hadith lui-même. Ils ne savent même pas ce que c'est. Fens, ma'akatir al-Muslimin, tout le khala Rasulullah, yani l'outiba'u li dinihi ma huwa illa l'outiba'u yani li. لا يوجد فيه يعني هناك نصوص يعني اهتمام بآيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et dans ce moment où on écoute le Coran, hein, beaucoup d'entre nous fait des efforts pour écouter le Coran du début jusqu'à la fin. Et à l'inverse, peu d'entre nous font des efforts pour comprendre même les dernières sourates, hein, les plus petites. Tu lui poses la question, c'est quoi le tel verset, c'est quoi tel sens, il est en train d'écouter le Coran, est-ce que ce que tu as écouté, les deux hizbs que tu as écouté hier, qu'est-ce que tu as compris de ce qu'Allah Azza wa Jalla il a dit dans le Coran? Il ne se pose même pas la question. Le principal, c'est qu'il a écouté, c'est tout. Il a écouté, c'était des versets qui sont rentrés par une oreille, qui sont sortis par une autre, et durant ce moment-là, il n'y a pas eu de réaction entre son cœur et les paroles d'Allah Azza wa Jalla. Parce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas et ne font aucun effort pour comprendre. Le fait qu'on ne comprenne pas, parce que bon, on n'a pas vécu dans un milieu qui parle la langue arabe, la langue du Coran, on n'a pas vécu dans un milieu qui s'occupe des sciences de la religion, etc. C'est une chose. Le fait de ne pas faire d'effort pour comprendre, c'est une autre. Insane, il passe sa vie, 20 ans, 30 ans, il fait la prière, il repart, il est dans sa vision de la religion, comme il entend, comme il a hérité, il écoute le Coran, il écoute des versets, il ne sait même pas ce que c'est, il ne se pose même pas la question. Ah, il est, Allahu Ahad, Allahu Samad, c'est quoi Samad? On m'a appris à dire comme ça, hein, je sais pas, Samad, c'est quoi? On m'a dit de dire comme ça, et c'est tout. Et donc ça ne te gêne pas d'ignorer, ça ne te gêne pas d'ignorer ce Coran que tu es en train d'écouter. Allah Azza wa Jalla nous a pas envoyé le Coran pour qu'on l'écoute, et pour qu'on ne le comprenne pas. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas d'écouter, de venir, d'assister, d'écouter, machallah, et à la fin, voilà, j'ai écouté tout le Coran. D'accord. Et t'as compris quoi? Parce qu'il faudrait comprendre pour pratiquer. Et c'est pour ça beaucoup de gens que tu lui dis, ça fait partie de dîne. Cette religion, il faut qu'on la vive à l'intérieur de la mosquée et à l'extérieur. C'est un ménage hayat, c'est une façon de vivre. Et cette religion, elle est avec nous du matin au soir. Hein? Vous vous réveillez jusqu'à ce qu'on s'endort. Et Allah Azza wa Jalla nous a montré le chemin qu'on a à suivre. Donc, comment on doit se comporter entre nous, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas, les relations qu'il y a entre nous, les musulmans entre eux, entre le père de famille et son épouse, les enfants. Allah Azza wa Jalla nous a envoyé une religion qui est vaste et qui est praticable à chaque instant de notre vie. Et donc, le malheur de l'ignorance, comme on a dit, c'est un des plus grands maux que connaît l'Ummah islamien. C'est l'ignorance, le djihad. Hein, beaucoup qui parlent sans science. L'effort qu'on donne à notre religion est un effort minime par rapport à ce qu'on devrait faire. Et c'est comme si quelqu'un te dit, moi, j'aime bien les sports de combat. Et tout le temps, il rentre dans la salle, il fait un tour et il sort. Il va rester comme ça des années et des années. Est-ce qu'il va avancer, Annie, dans la... Il ne va pas avancer.
Même s'il te dit, je suis, j'aime, mais il faut, ton amour, hein, pour la religion, il faut qu'il se reflète. Tu aimes sport, il faut que tu t'attendes à faire des efforts, à pratiquer des choses. Il y en a, ni pour leur amour du sport, ils font des choses incroyables. Comment on dit en français, il se torture, il se sacrifie, il fait des sacrifices, il accepte des tortures, il y a un sportif, il y a un difficile. Hein. Quand tu vois ses intentions, les entraînements qu'il fait, etc., t'es ébahi. Il fait je sais pas combien, 100 pompes, machallah, il est à l'extrême, mais tu lui dis, tu fais tout ça pourquoi? Tu dis, parce que je rêve de devenir un maître dans ce sport. Hein. C'est un turc grave comme ça, celui qui me parle, juste je regarde, c'est bon. C'est un amour qui est fort et qui le. En sens, mais là on dit, ah, c'est un sportif, c'est un karatéka, mais on dit un musulman, hein, il devrait donner plus d'efforts que ça. Celui-là, il est derrière une ceinture, qu'est-ce qu'il va gagner? Un jour, quelqu'un, chaque bombe, ça y est, il a gagné. C'est tout, qu'est-ce qu'il va gagner d'autre? Pas grand-chose. Hein. Et puis, bon, les sports de combat, il scène avec une petite arme, il peut abattre un taureau. Donc, c'est pas trop offense. Qu'est-ce qu'il va gagner derrière ça? Pas grand chose. Dinada, il nous dit qu'on va gagner le paradis, le Jannah. On va être heureux sur terre et dans l'au-delà. Tout ça, toutes les promesses qu'il y a dans notre religion, on ne peut pas trouver des buts plus nobles que celles auxquelles aspire notre religion. C'est là le salut qu'on a. Tu éviteras l'enfer, tu seras au paradis, Akbar Naïm. Et tout ce que l'effort qu'on fait, par rapport à cela, il est bien minime par rapport à ce qu'on prétend. Rabbi Yahshadna wa Iyakum. Donc dans ce hadith, il y a certaines choses, certaines règles d'ordre général. Les ulama, ils ont tiré beaucoup de règles de ce hadith-là. La première des règles, c'est le fait de ramener le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on a le droit de citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam du point de vue de son sens ou du point de vue de son ou textuellement? Est-ce que on a le droit de dire voilà qala rasulullah et après vu que j'ai pas appris le texte par cœur, je peux dire Allah azza wa jalla le rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le sens comme ça. Hein? Donc riwaya bil ma'na. هذه المساله احدى المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء divergence entre savants dans ce sens-là. والذي تميل إليه نفس يقول الشيخ عبد المحسن العباد والذي تميل إليه نفس ويرتاح له القلب أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يستمسك بغرزه إذا ظفر به ويعض بالنواجد عليه وتعقد الخناصر عليه فلا يبدل بغيره عند رواية بل يؤديه من بلغه كما سمعه. La règle générale c'est que le fait de rapporter le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, la règle c'est de rapporter textuellement. Hein? Ça c'est la règle générale. Mais dans le cadre في مقام المذاكرة والاحتجاج والإفتاء فلا مانع من ذكره بمعنى. Un sens de hadith, parce que là, c'est dans un domaine de démonstration. Dans les domaines, dans le cadre de démonstration, on peut citer le sens de hadith. La deuxième chose, c'est le fait de résumer un hadith. Ah, le fait de citer un hadith, il faut, règle générale, on a dit, il faut le citer en entier. On ne le résume que pour citer une partie qui nous intéresse. Ah, comme on dit, un hadith qui est long, comme a fait Sahih al-Bukhari. Il citait à chaque fois la partie du hadith qui l'intéressait par rapport au chapitre qu'il citait. La troisième question, c'est de citer Tawatur, c'est le fait que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a une petite partie infime qui est venue au même titre que celle du Coran, c'est-à-dire Ja'at bi Tawatur. Tawatur, c'est le hadith الذي تناقله الرواة جيل عن جيل يعني بكثرة بحيث يبعد معها تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. C'est-à-dire, c'est le hadith qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par un grand nombre de personnes à ceux qui viennent après, un grand nombre, de telle sorte qu'on est sûr que c'est le hadith qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De telle sorte que c'est pas possible que ce soit un mensonge. Ça, c'est le terme qu'on dit hadith mutawatir, c'est-à-dire, c'est un hadith qui est au-dessus de tout soupçon, c'est un hadith qui est venu par un grand nombre de chaînes de transmission. Dans ce hadith aussi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre l'importance d'accepter le khabar quand il vient d'un seul. Il y en a qui, en essayant de refuter certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit ce hadith n'a été rapporté que par un sahabi. Alors que ce hadith comporte une question de l'i'tiqad, de la croyance, qui est une question importante. Et cette question, pour qu'on l'accepte, il faudrait qu'il y ait plusieurs qui la transmettent, parce que le fait qu'elle soit transmise que par un seul, ça ouvre la porte au doute. Et notre religion, il faut qu'on apprenne d'une façon qui est sûre. Et dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il cite, il faut nadar Allah umra'an, qu'Allah Azza wa Jalla élimine le visage de celui qui écoute. Donc il n'a pas précisé qu'il faudrait plusieurs. Il a parlé d'un seul. Ou Seha, celui digne de confiance, le musulman, quand il ramène une information, la règle, c'est que, surtout hadith Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, c'est qu'elle est acceptée. Ça, c'est la règle générale jusqu'à preuve du contraire. Surtout si c'est un imam ou si c'est quelqu'un de connu dans cela, dans le hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, comme le Bukhari, le musulman, etc., tout cela. Le muslim, dans ce hadith-là, Cheikh Abdel Hassan Abad, il dit « Akhbar ul-Ahad, Hujjatun, yajimu al-amalu biha » Donc, les hadiths qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la majorité des hadiths qui nous viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été rapportés par 1, 2, 3, au maximum par 4 sahabis. Ça, c'est la grande majorité, yani, des hadiths. Il y a une bonne partie qui a été rapportée par un seul compagnon. Donc, si on met cette règle, on détruit la religion. Si tu mets cette règle, tu dis, voilà, moi, s'il y a un sahabi qui a écouté ce hadith, j'exige qu'il y ait 2 ou 3 ou 10, etc. Ça, c'est avec cette règle, tu vas éliminer beaucoup de questions dans le shura. Et ça a été sujet à beaucoup de discussions, yani, dans les règles de la science. Dans Ilm al-Hadith aussi, dans Mustar al-Hadith, c'est une science qui est inconnue à beaucoup d'entre nous. Là-dessus, dans ce hadith aussi, c'est une preuve que le mursal n'est pas acceptable. Le mursal, c'est ce que ramène Tabi'i, il dit qu'à la Rasulallah. Tabi'i, c'est celui qui a vu les compagnons du prophète, mais n'a pas vu le prophète. Le hadith aussi n'est pas considéré comme étant yani sahih, parce que Tabi'i, il peut aussi ramener d'un autre Tabi'i, et Tabi'i ne sont pas, n'ont pas le degré des compagnons. Ce hadith aussi montre l'importance de transmettre la science, de donner l'importance à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on ne comprend pas le sens, le fait de le transmettre à ceux qui peuvent le comprendre, bien le pratiquer, c'est quelque chose aussi d'important. Il peut transmettre ce hadith à quelqu'un qui le comprend mieux que lui. Et donc là-dessus, dans Ilm al-Hadith, on trouve les ulama qui ont donné beaucoup d'importance à l'Ilm al-Riwaya, la science de ramener, d'apprendre par cœur les chaînes du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chaînes et les textuels, et les ulama de Ilm al-Diraya. Ilm al-Diraya s'occupe du sens qu'il y a dans le hadith. Il y a Ilm al-Riwaya qui s'occupe de l'authenticité. Parce que si un hadith n'est pas authentique, ça ne sert à rien de chercher à savoir ce qu'il y a comme conclusion dans ce hadith. C'est un hadith daïf. Beaucoup de hadiths qui sont célèbres ne sont pas justes. Le prophète ne les a pas dit. Beaucoup de gens disent, c'est dans ce pays-là, il te dit, le prophète il a dit, c'est lui qui dit, Ikhtilaf Ummati Rahma. La divergence de ma nation est une miséricorde. Et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. C'est un hadith mawdou'. C'est une information qui est fausse. Le prophète n'a pas dit cela. Ce hadith contredit le sens du Coran. Si la divergence c'est une clémence, c'est une miséricorde. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inverse, hein, qui est la convergence, qui est le fait qu'on soit d'accord, c'est quelque chose de pas bien. C'est ça. C'est le sens inverse. Alors, si tu dis que le fait d'être divergent c'est bien, c'est-à-dire que le fait d'être convergent c'est pas bien. Et ça, que nul ne le dit. Allah Azza wa Jalla nous a interdit de suivre le chemin de ceux qui étaient avant nous et qui se divergeaient. Hein? Ah, Allah Azza wa Jalla dit, wa la tanaza'u, fa tafshalu, wa tadhhaba rihukum. Hein, ne vous discutez pas, ne vous divergez pas, ça va vous affaiblir, et il n'y aura plus votre vent, c'est-à-dire vous n'aurez aucune influence sur les états musulmans. La divergence n'est pas quelque chose de recommandé. Donc, celui qui cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il soit sûr de ce qu'il ramène. C'est pas quelque chose de facile de dire qala rasulullah, de dire que le prophète a dit. Parce que la religion, elle est basée sur le Coran et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que, nous on n'a pas peut-être vécu cela, mais les premiers siècles et siècles de l'islam, qui ont connu des grandes batailles à l'épée pour que cette religion existe et qu'elle se propage, a aussi connu une bagarre, des grandes batailles qui étaient internes pour ceux qui voulaient changer cette religion, comme a été changé le judaïsme et le christianisme. Mais il y a eu des gens, des ennemis de cette religion, qui ont monté sur le prophète, qui ont ramené des hadiths qui n'existent pas, pour essayer de changer cette religion de l'intérieur. Il y a eu un grand effort dans ce sens-là. Et Allah Azza wa Jalla l'a fait qu'il y ait des grands savants, comme l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahawi, ibn Madini, tous ces grands savants de hadith, hein, qui ont combattu cela, et qui ont fait une science qui reste une des caractéristiques de cette nation musulmane, et c'est la seule qui a cette caractéristique, par rapport aux juifs et aux chrétiens, umma al-islamiyah, il y a umma tout l'islam. Hein, c'est la nation de la chaîne de transmission, c'est-à-dire que chaque information qu'on a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est consolidée par une chaîne de transmission de gens qui sont sûrs dans le fait de la transmission de ce qui nous est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette religion, Allah Azza wa Jalla a dit, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Il a fait descendre le zikr, le Coran et la Sunna, et il s'est promis de le protéger. L'umma islamienne, c'est l'umma où on trouve cette science qui est ilm al-hadith, hein, la science du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de protéger cette information qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on n'a pas, pour savoir une sunna aujourd'hui, on ne peut pas aller sur internet, appuyer sur un bouton, dire tiens, je veux voir comment le prophète il a fait la prière, et devant toi tu vas voir le prophète en train de prier. On n'a pas ça. Tout ce qu'on a, c'est ce qui a été transmis par ceux qui ont vécu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ceux qui sont venus après jusqu'au deuxième et troisième siècle, où la majorité du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été écrit. Et le fait de ne pas comprendre cela par beaucoup de musulmans, quand tu le dis, il y a un danger dans le fait de lire à des gens qui ne maîtrisent pas cette religion, parce qu'ils risquent de ramener des hadiths que le prophète n'a pas dit, et ils peuvent dire que le prophète les a dit, parce que l'ignorance ouvre les portes à tout. Celui qui est ignorant, il ne sait pas. C'est comme celui qui ramasse le bois en pleine nuit. Il peut tomber sur un morceau de bois, comme il peut ramasser un serpent. Voilà, c'est la même chose. Et sa bonne intention, c'est pas ça qui va lui garantir qu'il va pas tomber sur un serpent. C'est ça le halat al-muslimin aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais il y a peu de science. Et donc il y a beaucoup d'entre nous qui rentrent dans des choses qui sont fausses, pas parce qu'ils ont une mauvaise intention, pas parce qu'ils n'aiment pas le din, ou ils n'aiment pas le sunna, ou qu'ils aiment le bid'a, ou qu'ils aiment, non. Parce qu'ils n'ont pas les outils qui leur permettent de voir le droit chemin. Parce qu'ils n'ont pas la science qu'il faut. C'est un shaitan, il dit que c'est pas grave, toi t'as une bonne intention, ça te suffit. Non, la bonne intention, il faut avec la bonne intention avoir la bonne science. Et une scène pour découper un mouton, il a besoin de savoir. Tu égorges un mouton, tu appelles quelqu'un qui a l'habitude d'égorger, qui sait, tu dis voilà, attention, etc. C'est juste pour égorger un mouton, tu appelles à quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait comment faire. Qu'est-ce que c'est que de la religion qui parle, du paradis et de l'enfer? Et on néglige beaucoup cette question-là, parce qu'on pense que c'est des choses simples. Un chétain dit, oh la religion, c'est bon, c'est pas... Non, non. La science, elle est très très importante. Le fait de comprendre ta religion, d'avoir les outils qui te permettent d'accéder au texte, c'est quelque chose de très important. Beaucoup d'entre eux ne savent pas, ils entendent hadith, qala rasulullah, sahih, da'if, enfin, ils ne savent pas ce que c'est. Et ils se contentent de son ignorance. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Et donc, on a dit, le din, il est basé sur le fait de maîtriser ou de maîtriser la science qui nous permet de savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans le hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire riwaya, à connaître le hadith sahih ou daif, ça c'est très important. Il peut avoir des bons bagages dans la langue arabe, et il peut avoir des bagages dans l'histoire, dans beaucoup de choses, il peut être éloquent dans ce qu'il dit, s'il ne sait pas la science qui permet de discerner entre ce qui est juste et ce qui est faux du hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit n'a pas de valeur. Il peut tomber sur un hadith qui est faux, et il peut le citer. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui est faux, ce qui est juste. Il ne sait pas si le hadith, le prophète, il a dit, il ne l'a pas dit. Comment il peut transmettre ce qu'il n'a pas. Donc, le fait de maîtriser, ilm riwaya, le fait de maîtriser hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de savoir les règles de base, quand on sait au moins les choses les plus simples. Hadith Rawah al-Bukhari ou Muslim, on sait que c'est juste. Que c'est al-Bukhari ou Muslim, la majorité de ce qui est ramené, à part quelques petits détails, c'est quelque chose de sûr. Ça, c'est des règles qu'on devrait savoir et avoir par cœur. Comprendre c'est quoi un hadith sahih, da'if, comprendre qu'il y a beaucoup de hadith da'if qui tournent dans cette nation, beaucoup de hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, et que beaucoup de gens pensent que c'est que le prophète a dit. Et ça change la religion, parce que pas du moment où tu dis le prophète a dit ou a fait, toi tu dis, tu fais, tu suis. Et donc c'est une grande porte pour l'innovation. Celui qui ne sait pas va des hadiths qui ne sont pas vrais, que le prophète n'a pas dit, et tu dis le prophète il a dit, et de là ça fait une porte à quoi? À l'innovation dans l'ibada. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu contre les dangers de l'innovation. Beaucoup de choses, il prie, il jeûne, tout ça c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui explique le Coran, et la plus grande des explications, c'est dans la vie pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a peu de bagages dans cette science, il est pauvre, tu sais pas c'est quoi sahih da'if, tu peux prendre un hadith, tu sais même pas si c'est sahih da'if, tu sais pas où t'orienter dans la religion. Donc le fait de savoir c'est quoi ilm al-riwaya, ilm al-hadith lui-même, c'est un outil qui est important et auquel on devrait donner beaucoup d'importance dans ce qu'on appelle la construction institutionnelle dans ce qu'on apprend. Quand on rentre en primaire, on est à l'école, ils nous apprennent à lire, ils nous apprennent à compter. Ça c'est quelque chose d'universel parce qu'on dit que c'est quelque chose d'important pour l'avenir. Et parmi les choses importantes, très importantes qu'on devrait apprendre aussi, c'est les règles de base qui nous permettent de savoir, hadith sallallahu alayhi wa sallam, les bases de notre religion. Sinon, n'importe qui peut prétendre dans la religion n'importe quoi. L'insane, il croit à tous ceux qui sont déviés, qui ont dévié du droit chemin, ils n'ont pas dévié parce qu'ils manquent d'intelligence ou parce que c'est pas des hommes qui ont des raisonnements, des bons raisonnements, etc. Non, ils ont dévié à cause de l'ignorance, à cause des erreurs, et ils étaient intelligents, ils réfléchissaient bien, mais malgré ça, ils ne sont pas sur le droit chemin. Il y a beaucoup de chrétiens, quand tu l'entends parler, tu dis, oh là, il a des bons raisonnements, mais pourtant, il est dans le faux. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, qui ne sont pas dans la religion, quand ils parlent, tu dis, il a quel beau raisonnement, etc., alors qu'il est dans le faux. Donc, sans cette religion, sans les textes, sans le fait d'être près des sources du Coran et de la Sunna, on est perdu. Notre intelligence, notre façon de réfléchir ce que Allah Azzawajal nous a donné comme ni'ma, le fait de pouvoir réfléchir et de raisonner, ça ne suffit pas si on n'est pas près des textes. Et donc le fait de savoir quels sont les textes justes de ceux qui sont fous, et à travers l'histoire il y en a eu, tous ceux qui ont combattu l'islam de l'intérieur, ils ont sorti des textes qui sont faux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
tous ces groupes qui ont dévié. Shia, ils viennent. Shia, ça fait une bonne une partie minime des musulmans. Mais quand tu vois ce qu'ils ramènent comme texte, yani, là-dessus, c'est effarant. À ce qu'ils disent sur les compagnons, etc. Et ça montre que c'est le résultat de cette guerre interne qui a été menée contre l'islam à un certain moment, qui a laissé ses traces jusqu'à aujourd'hui. Fait-il aussi que dans ce hadith, parce que c'est un autre point qui est important, parce que le prophète dit, c'est la sunna yughallu alayhi naqalbu muslim ikhlasu al-amali lillah wa munasahatu a'immati al-muslimin wa luzumu jama'atihim. Le fait d'être avec le groupe des musulmans, le fait de vivre avec, de suivre l'ensemble des musulmans, on parle surtout de suivre nos pieux prédécesseurs, ce qu'on appelle l'ijma, le consensus des imams. Le consensus, ça c'est quelque chose d'important. Et le consensus, c'est surtout le consensus qu'il y a eu durant les trois premiers siècles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ijma', yani salaf, ça c'est quelque chose de très important. Et c'est une des sources, c'est là que Allah Azza wa Jalla dit « Omen yushafiqi rasoula » ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى في رواية نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. Donc celui qui verset 10, celui qui dévie du prophète après qu'il ait vu la vérité et il ne suit pas le chemin des croyants, des mu'minin. Ne pas suivre le prophète, ça suffit pour être parmi les gens qui sont en dehors du droit chemin. Donc, c'est ça, Allah Azza wa Jalla a dit, au menu chaque Rasul, celui qui ne suit pas le prophète après qu'il ait vu la vérité, et ne suit pas le chemin des musulmans. Ça veut dire que le chemin des musulmans, le consensus, c'est une des références, vous dites. Le consensus, c'est al-Muslimin, le Tibet al-Salaf, et le plus grand des consensus, c'est le consensus qu'il y a eu entre les compagnons et ceux qui ont suivi après, etc. Donc, ça, c'est la preuve que ce consensus, leur façon de comprendre la religion, leur façon de pratiquer la religion, c'est une preuve. Parce que c'est eux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont porté cette religion et c'est eux qui ont réussi en fait de porter cette religion. Donc, leur compréhension, c'est la bonne compréhension. Maintenant, c'est pour le que nous avons aujourd'hui, puisqu'on est en France, on a besoin d'une nouvelle vision de la religion. On a une nouvelle, faut qu'on regarde le dîn, faut qu'on l'explique avec une nouvelle explication parce qu'aujourd'hui on est plus technique mathématique que du temps des compagnons, hein. Donc on est plus intelligent, donc notre compréhension elle est mieux que la compréhension des compagnons qui eux ils vivaient dans le désert, ils n'ont pas connu toutes les innovations scientifiques d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a besoin d'un islam novateur, nouveau, hein, techno-islam, hence l'islam ta' salaf, l'islam qui nous vient de nos pieux prédécesseurs du temps de Omar ibn Khattab. Et tu dis ça, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Et afi, Rabbi yahdik. Tu peux pas être plus intelligent que Omar ibn Khattab ou que Sahaba ou que Allah Azza wa Jal a envoyé les meilleurs pour qu'ils soient autour de son meilleur prophète. Les compagnons, c'est une génération qui a été élue pour être celle qui accompagne le meilleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la compréhension qu'on a à suivre, c'est leur compréhension. Le chemin qu'on a à suivre, c'est leur chemin. Tous ceux qui nous disent, voilà, il y a un nouveau, il faut comprendre comme ça, ça, on l'écarte. On est musulmans par rapport au texte, par rapport au Coran et à la Sunna. Hein, l'islam, il est caractérisé par ses sources. Hein. Que des gens ils viennent disent, oui, vous êtes des fondamentalistes, vous restez sur ce que vous avez compris avant. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne de plus, Yannick? Tu veux quoi? Non, on comprend ce qu'il y a dans le Coran. Bon, vous avez un problème quand on parle des chrétiens. Je dis parce que votre livre sacré a été changé. C'est vrai qu'il y a il y a la main de l'homme qui est rentrée dedans et c'est pour ça que vous trouvez des problèmes dans vos livres sacrés parce que la main de l'homme elle est rentrée. C'est pas quelque chose qui est 100% divin. Le Coran le Karim il est 100%, il vient d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas la main de l'homme qui est rentrée dedans. Hein? Le moment où il y a eu le problème de savoir si la terre elle était plate ou si elle est tournée, etc., ou si elle était ronde. Ça posait pas de problème, le musulman. parce qu'il n'y avait pas de texte qui le disait carrément, la terre elle est plate ou elle est... c'est pas un problème pour le musulman. Celui qui disait pas, celui qui disait le rang, je sais pas. C'est pas ça le but du Coran, mais on trouve pas de texte dans le Coran qui dit qu'elle est, voilà, qu'elle est, la terre n'est pas ronde, elle est plate, elle est de façon aussi explicite. Et la main de l'homme quant à rente, elle est toujours influencée par les sciences de son temps, et c'est une des façons de savoir que tel livre a été. Il y a la main de l'homme qui est rentrée dedans, lorsqu'on voit, c'est-à-dire les connaissances, hein, que celui qui a rajouté des textes dans les textes sacrés, c'est-à-dire ces textes-là, s'imprègnent de sa personnalité, de ses connaissances. Et comme ces connaissances sont liées au temps où il a vécu, c'est normal que cette inconvenience qu'il considérait à un certain moment, ils étaient absolus, elle devienne aujourd'hui relative, avec l'avancée de la science. Et c'est ce qu'on ne trouve pas dans le Coran, parce qu'il vient d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a créé l'univers, qui a fait les règles sur lesquelles marche cet univers. Et on ne peut pas trouver le kitab la yati al batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Au contraire, on va trouver des textes où le fait que la terre est ronde est le plus explicite. Yukawiru al-layla al-nahar wa yukawiru al-nahara al-layl. Et beaucoup de savants d'Islam bien avant. Ah, parce qu'aujourd'hui tu dis oui, la terre ronde, c'est Galilée qui l'a dit. Non, il y a des savants musulmans qui ont dit avant. Et ça, c'est une des vérités scientifiques qui a volé l'Occident aux musulmans, et cela rajoute à lui. Et donc, comme on a dit, le consensus est quelque chose d'important. Et celui qui sort du consensus sort du droit chemin. On a sur le salam dans le hadith, lorsqu'il a cité que l'Yahoud s'est divisé en 73 parties, c'est ça. Les Nasara, ils sont divisés en... Pardon, inverse. Les Houd se sont divisés en combien de parties? 71. Nasara en 72 et nous en 73. Ça veut dire que le risque qu'on a, nous, pour dévier du droit chemin, il est bien plus important. Hein, il est fort. Et parmi les règles qui nous permettent de savoir si on est ou on n'est pas sur le droit chemin, c'est le fait de ne pas être... de ne pas suivre quelque chose qui est contre le consensus de ce qu'on a de nos pieux prédécesseurs. Hein, qu'on ne fait pas quelque chose qui est contraire à ce qu'on considère comme ijma. Ijma, le Coran est mashhoud lahum bil khayriya. Ça, c'est une des règles qu'on a à voir. Beaucoup de musulmans n'aiment pas qu'on cite ce hadith parce qu'ils se disent oui, c'est un hadith qui fait mal, qui dit que beaucoup de musulmans sont en enfer. Non, ça c'est tu essaies de comprendre le hadith comme tu l'entends. Lazim ou pas ou l'isa, mais lazim. Alors, ce qui découle d'une phrase, la logique qui vient d'une phrase, ça ne veut pas dire que c'est elle là, que c'est ça le bon. Alors, Rasoul Salam, il a dit, Sofatan Qasim ou Matikulwa Finnar, ça ne veut pas dire que cela, tous ceux qui tombent dans une innovation, il est en enfer. Beaucoup comprennent comme ça. Il te dit, voilà, il a dit, 73 parties en enfer, la majorité de la nation musulmane, donc, elle est en enfer. Alors, il te dit, ne me ramène pas ce hadith, ça me fait peur. Citons autre chose. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension, il y a un hadith. La majorité de cette Oumma, Inch'Allah, elle est au paradis. Et même si certains d'entre eux tombent sur des choses qui sont considérées comme innovation ou comme coffre des fois, c'est parce qu'elles ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ont, la majorité, il a une bonne intention dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait de savoir sur quoi le chemin et de le suivre. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il est éloigné de la vérité. Il y a des facteurs qui sont dus à l'éducation, du fait que le milieu dans lequel il a vécu, il est loin de la pratique de la religion. Il est loin même de l'utilisation de la langue arabe. Beaucoup de musulmans, surtout dans ce pays-là, ne savent même pas parler la langue arabe comme il faut. Quand tu fais un cours en langue arabe, il y a peu qui suivent et qui assistent. Alors, quoi parler du fait de dépasser cela, le contexte de la langue, au contexte de comprendre la religion, au contexte de bien pratiquer la religion. Donc, beaucoup d'entre nous font des choses, peut-être qu'ils sont considérés, ils tombent dans l'innovation, ils tombent dans ce qui est faux, parce qu'ils ne savent pas. Mais ils ont vraiment la nette intention, lorsqu'ils savent la vérité, de la suivre. On sent cela dans beaucoup de gens. Et beaucoup des habitudes qu'on a prises, parce qu'on sort quand même d'une période
où on n'a pas connu l'embellissement de l'islam, ensemble des périodes où on était faible, ensemble d'une période où on a été colonisé, où l'ensemble des pays musulmans ont été colonisés, ensemble d'une période de faiblesse intense. Et bien sûr, lorsqu'on sort d'une période comme ça, ce qu'on a hérité, c'est pas un islam qui est fort, c'est pas l'islam qui est dans sa pratique la plus forte. Si l'islam il était dans sa pratique la plus forte, les musulmans ils ne connaîtront pas cette faiblesse. Parce que Allah Azza wa Jalla il a dit in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah Azza wa Jalla il a donné le nasr aux tribus arabes de leur temps, alors que ce qu'ils avaient comme potentiels guerriers, les juges qu'ils avaient, ils dépassaient pas 20 000 guerriers, ils ont battu les Romains, les Perses et les Romains, alors que les armées des Perses et des Romains, c'était des armées qui se comptaient par centaines de milliers. Et c'était des armées qui étaient entraînées. C'est-à-dire, quand on disait, au début, certains, mounafiqines, ils rigolaient des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, quand tu vas lire cela, quand tu vas lire Ghazwat al-Khandaq, le Ghazwat où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a creusé les tranchées autour de Al-Munafiqin, il disait, le compagnon, votre prophète, il dit que vous serez plus fort, alors que là, vous êtes encore, vous avez peur, et vous avez creusé des tranchées, etc. Et vous voulez gagner, vous voulez avoir raison sur les Perses et sur les Romains. Des gens qui mettaient ce doute du temps du prophète. Et ça, l'exploit qui a été fait par les compagnons du prophète de leur temps, est un exploit qui est retentissant jusqu'à aujourd'hui. Ils ont battu les Romains, jusqu'à Constantinople, ils ont fait reculer, ils ont effacé l'Empire perse. Et Shia aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui d'Iran et le fait de consolider l'héritage perse par la langue terme et par les habitudes qu'ils ont, c'est une réaction du fait que l'islam a enrayé à tout jamais l'Empire perse. L'Empire perse, il a été enrayé par les musulmans. Et c'était incroyable de leur temps de savoir que le peu de gens qui étaient dans la péninsule ibérique, le Jazira al-Arabia, pouvait battre les Romains et les Perses. C'était quelque chose d'incroyable. C'est pas possible. Et Inès, quand tu le disais ça de temps avant qu'ils voient ça de leurs yeux, c'est pas possible. Comment ça? Les Arabes, qui sont des tribus, qui sont même pas d'accord entre eux, qui se bagarrent entre eux, ils sont dans le désert et ils ont même pas les ressources naturelles qu'il faut pour avoir une civilisation. Ils sont vraiment dans la sécheresse. Comment ils peuvent battre les Romains et les Perses? Et une civilisation qui a des assemblées, qui a des gens qui parlent, etc., qui est bien organisée. Comme des gens qui se battaient quand ils faisaient la bataille, c'était, ils venaient en groupe et c'était, ils se lançaient sur l'ennemi. Ils n'avaient pas de méthodologie dans la bataille, des guerres, etc. Ils ne savaient même pas ça. Et pourtant, l'islam, quand il est venu, quand ils sont devenus sur le droit chemin, ils sont sur Allah et sur Koum, où ils se battent à Damakoum, Allah Azza wa Jalla, il leur a donné le nasr. Et c'était eux qui ont eu le dessus, selon ma peuple, parce qu'ils pratiquaient bien le dîn. Et aujourd'hui, si on est faible, c'est pas parce qu'on comprend bien le dîn et qu'on le pratique bien. Si on est faible, ça veut dire que notre compréhension de la religion, elle est faible. Notre pratique de la religion, elle est faible. Et c'est la réalité. Beaucoup d'entre nous, ils pleurent, ils disent, les Juifs, ils ont pris, la Palestine, ils ont pris. Et c'est notre faiblesse, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que l'Azouj nous a donné bien plus que ce qu'on mérite en réalité. Si on voit les divergences, la réalité dans laquelle on est en train de vivre, la part de cette religion dans notre vie courante, quelle est la part, c'est peu, c'est très peu. Seul, on n'est pas en train de vivre, sur une planète qui est loin de réalité. On a tous nos familles, on a tous des frères et des cousins, et on voit la pratique de la religion, comment elle est forte. Mashallah, elle est bien faible. Et ça, c'est la réalité, c'est ce qui fait la faiblesse qu'on a aujourd'hui. Et si aujourd'hui, toi, il vient, il te pleure, il te dit du matin au soir, tu vois les juifs ce qu'ils ont fait en Palestine. Tu te retournes, tu lui dis, Mashallah, vraiment, t'as ton cœur sur cette religion. Est-ce que tu te réveilles pour faire Salat Subh? Il te dit, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que c'est? Moi, je te parle des Juifs et des Américains, toi, tu me passes Salat Subh. Mais tu n'arrives même pas à pratiquer din en toi-même. Tu n'arrives même pas à conserver tes prières à l'heure. Allah Azza wa Jal, il t'appelle chaque matin, à travers l'Aden, pour faire Salat Subh, pour faire les Salat Subh. Tu n'es même pas là. Et après, tu nous dis, la Palestine, regardez, il nous frappe. Mais c'est toi qui frappes le premier. Tu ne te rends pas compte, c'est tout. Par ton ignorance, par ta mauvaise pratique, par l'exemple qu'on donne nous les musulmans, dans notre propre pratique, dans notre bonne morale, c'est nous qui frappons notre religion. On devrait s'insurger contre nous. Si tu parles des juifs, ben, mais c'est normal. Tes ennemis ne vont pas te faire de cadeau. Si tu veux faire. Et si mon ennemi m'a frappé. Mais la phrase, elle est. On n'a pas assez tourné cette phrase. C'est la réalité. C'est ton ennemi qui te frappe. C'est toi qui dors. Si quelqu'un, tu lui dis, voilà, il y a un voleur, il est venu, il m'a frappé, il m'a pris mon argent, tu vois. Eh bien, il te dit, pourquoi tu ne te défends pas? Tu lui dis, non, mais je ne me suis pas défendu. Mais il te dit, c'est toi le fautif. Tu l'as laissé prendre. Oui, tu lui dis, oui, il m'a pris mon argent. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu lui dis, non, je suis resté, j'étais juste en train de regarder. Ah bon? Et les gens, ils vont dire quoi? Il dit, c'est toi qui as fait du mal à toi-même. C'est comme ça, on ne pratique pas notre religion. On donne peu d'efforts pour notre religion. Après, on demande beaucoup. Hein, quand il s'agit de demander, on demande beaucoup. Ah, on fait du'a, Allah Azzawajal Nsorna. Et après, on dort. Salat. Hein? Après, quand il s'agit de dire l'insan, il a un problème avec sa femme ou divorce, il dit, qal Allah. Tu dis, non, 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 non. Moi, tu dis à la femme, voilà, ton mari l'a divorcé, il faut que tu restes. Tu as divorcé ta femme, premier divorce, et il faut que ta femme elle reste 2 mois chez toi. Elle aussi, elle ne sort pas. Ah là, il te dit, non, 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 moi, dès qu'il y a le premier problème, la femme, elle te dit, moi, je pars chez ma mère. Tu lui dis, c'est contraire, le din. L'Azogi, il n'a pas dit ça. Ah non, 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 il te dit, moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pratiques le din, c'est le hawa. C'est ça, man itab'a hawa. C'est ça, le hawa. C'est le din, on le pratique. Que lorsqu'on est bien, tranquille, regardez, musulman, ça, on peut parler de religion, allez, c'est bon. Hein? Mais quand il s'agit de choses qui nous touchent, qui nous font mal, hein, des choses qui nous demandent de faire des efforts, des choses, ah, là, on est absent. On se demande, on se dit, oh, les Américains, non, faut pas parler, il y a celui qui te parle, il te dit, les Américains, juste, tu lui dis, non, les musulmans. Change d'axe, parle de nous, les musulmans, c'est nous qui sommes faibles dans notre pratique. Sinon, qui sont loin dans la bonne compréhension. On a combien de compréhension se dit lorsqu'on parle de choses qui font partie de presque du consensus. Il y a des musulmans qui disent non, mais je ne connais pas ça. Le voile intégral, moi, je n'ai jamais connu. C'est quoi cette histoire-là? Alors que la France, quand elle est rentrée en 1832, chez nous, en Algérie, la majorité des femmes portaient le haïk. Ça n'existait pas une femme dehors sans haïk, sans le. C'est une des formes, yani, de voile intégral. Le voile intégral fait partie de l'islam depuis, dans ses textes. Tu peux même pas l'enlever, même si tu veux. C'est dans les textes, yani, c'est dans le Coran et dans la Sunna. C'est un consensus, yani, bin muslimin. Il y en a qui disent que c'est obligatoire, c'est vrai. Il y en a qui disent que c'est surrogatoire, muslim. Ça, c'est vrai. Mais tout le monde est d'accord sur le fait que, qu'il existe, il fait partie de la religion. Qu'est-ce que tu racontes? On a un voile intégral, on n'a pas, c'est vrai, on n'a pas comme les chrétiens, un cadre intégral, yani. Une femme qui va, et elle vit dans le monastère, vraiment coupée de la vie, elle cherche même pas aucune relation avec l'extérieur, ça on lui dit rien du tout. On parle à une femme, maintenant, qui appartient à voilà, on lui dit non, non, toi tu veux pas parler à l'extérieur. Où est-ce que les raïfs sont ma'ataha? Celle qui est dans l'église, ou l'absatou, etc. Pourquoi tu, celle qui se prive de la vie, qui abandonne sa famille pour la chrétienté, hein? Celle qui vend sa vie pour Jésus, comme ils disent, tu lui dis pas, là, tu coupes les liens avec le. Elle te dit, c'est clair. C'est couper les liens avec le monde. Subhanallah. Et vivre qu'avec Dieu. Ça, on parle pas. Et on cite cela, quand il s'agit de parler de la position d'Afanfuddin, parce qu'elle est militée, parce qu'elle cache, ce qu'elle veut cacher, parce que l'homme, c'est normal, il y a une influence, la femme, elle influence l'homme, hein, c'est ça. Un homme qui voit une femme presque nue et qui n'y réagit pas, c'est qu'il a un problème. Hein. C'est qu'on définit un homme, on dit voilà, il réagit à la femme. S'il n'y réagit pas à la femme, c'est qu'il y a un problème dans la femme ou là dans l'homme. Voilà, c'est ça. Et donc la femme, elle influence l'homme à travers quoi? À travers ce que l'Azza wa Jalla lui a donné comme physique, hein, c'est ça. Mais bon, apparemment, il y a des hommes qui passent sur outre ce point-là, et il donne pas d'importance à l'aide de ce sujet. Après, on se dit, oui, il y a des femmes, elles sont agressées l'un à l'autre. L'Azogé a voulu protéger la femme, par la chérie. Tu vois une femme voilée, tu sais pas si elle est jeune ou si elle est vieille. Hein? Tu vas pas agresser une femme, tu sais pas, tu vas dire, bon, allez. La femme, elle est toute seule. Ah, Hassan, il sait pas. Il dit, oh, si je tombe sur une vieille, elle ne sait pas. Allah Azza wa Jalla pour les projets, les kayla yu'arafana, fala yu'adhaini, yani. C'est, là, en France, on dit, on défend la femme. Il se dit, voilà, on la défend. Vous regardez combien vous avez de viols. Gens qui, subhanallah, regardez ce que vous avez. Attendez, il la protège, ma femme. Ah. Il te dit, en plus, on protège la femme, il ne faut pas qu'elle soit. Et on protège l'honneur de la femme. Il y a des centaines de milliers de femmes qui se prostituent en France. Et quand elles se prostituent, Yanni, est-ce que c'est honorable pour la femme? Hein? Tu viens avec l'argent, tu demandes à cette femme de faire toutes les positions de singe et de je ne sais pas quoi. C'est honorable pour la femme? C'est ça le. Quand tu leur dis ça, ils disent que non, ça, on ne peut pas le combattre. C'est le plus vieux métier du monde. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pas vrai que c'est plus... Du tout, tu sors cela. Il te sort quelque chose qui n'a aucune relation avec la réalité. Le plus vieux métier du monde, les fils d'Adam, il y en a un, il était berger, et l'autre, il faisait la terre, c'est ça. Et donc, le plus vieux métier du monde, c'est le métier de berger, le métier d'agriculteur. Il n'y avait pas de métier de l'Al-Fsed, il n'y avait pas de métier de... Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est... Non, il te dit, on ne peut pas combattre. Comment ça, tu ne peux pas combattre? Si tu as une règle, tu la suis à fond. T'as dit, il faut combattre la femme, etc. Ben, quand il tourne, on arrive. On trouve des centaines de milliers de femmes. Des fois, t'es choqué, yani, tu rentres dans certaines villes, tu passes par des rues, tu trouves des femmes qui se présentent comme de la marchandise, yani. Hans. Ou les celles qui se prennent des boîtes, etc. Hans. Et c'est la marchandise. Certains, ils font même la facture. TVA induite, je sais pas quoi, si tu veux récupérer la TVA. La hawla wa la quwwata illa billah. Et après, on parle, yani, de d'honneur de la femme, et on parle du fait que nous, Dine, s'il a voulu protéger la femme, s'il y a cette humilité, s'il y a de la pudeur, c'est normal. Et puis tu parles du fait, pourquoi elle protège son visage? Pourquoi tu dis, pourquoi elle protège sa poitrine? Allez, à ceux qui portent le hijab, pourquoi elle protège sa poitrine? Pourquoi ça te dérange? Ben, elle protège le visage, comment elle protège sa poitrine, comment elle protège toutes ses autres parties? Pourquoi tu acceptes la pudeur à un certain degré, tu l'acceptes pas dans d'autres? Oui, ça c'est des questions. Yani, quand on voit la raison humaine par rapport au texte, et là, non, on est encore loin de ce qu'on connaît. Si, les gens qui, si tu vas suivre ce que disent ou les textes de la réalité, tu vas trouver des vérités, yani, bien plus que ça. Mais les musulmans, on ne s'occupe pas de notre religion comme il faut. On ne se défend pas comme il faut. Si on a des gens qui nous représentent, ils nous représentent devant le kuffar. Voilà, hein, avec l'esprit du vaincu. Tu vois, il vient, un tel philosophe, là, Oxford, etc. Et on commence à... Nous, hein, ça vous plaît pas dans la religion. Allez, on enlève. Après tout, on peut faire un référendum entre nous. On va voir si on peut si on peut changer cela. Ça, c'est l'esprit du faible. C'est la position du faible. Ça, t'es dans une religion qui porte la vérité. Tu es fort. Tu viens, tu parles, si j'ai voulu parler. Vous avez un problème dans la lapidation. Et vous avez un problème dans l'alcool. Là, on a un problème dans la lapidation. Il y a combien qui ont été lapidés à travers l'islam? Et quel est ce malade-là qui va faire, qui sait qu'il est dans un milieu religieux, islamique, mais bien comme il faut, et qui va aller à la fornication avec 4 témoins? Parce qu'il faut, qu'il y ait 4 témoins. Dit-on d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il y a 4 témoins qui sont présentés pour dire qu'un tel, on l'a vu faire l'adultère. À faire zina. Wallahiyadu billah. Amr ibn Khattab, il pose la question au premier, au deuxième, au troisième, il arrive au quatrième, chacun lui dit, t'as vu, yani, bien comme il faut, il a dit bien comme il faut. Le quatrième, il a dit, t'as vu, il a dit, non, j'étais dans un angle où je voyais pas bien comme il faut. Hein, j'étais derrière, je voyais l'homme, mais je voyais pas ce qu'il faisait. Ah, Amr ibn Khattab, il a dit, c'est comme ça, d'accord. Il a pris les quatre, ils ont pris les 80 coups de fouet. Parce que ça devient de... Ça devient du fait de donc le fait de d'accuser un musulman par quelque chose qu'il n'a pas fait. Et pourtant là, il y avait 3 témoins, ça suffisait pas. Donc celui qui est dans un milieu musulman, et nous, pourquoi tu nous parles de, il parle de le truc de lapidation? Et en France, non, il n'y a pas de charia, rien du tout. Pourquoi tu casses la tête? Il se passe là-bas. Celui qui est dans un milieu, l'islam, il a, ce qu'il combat, c'est l'ostentation. C'est le fait de la montrer au grand jour devant tout le monde. L'islam n'a pas été à dire, voilà, ne faites pas les péchés. Celui qui veut faire les péchés, il est péché. Chez lui, ne les faites pas. C'est-à-dire, dès qu'il y a sanction, il y a sanction parce qu'il y a un péché qui a été fait d'une façon ostentatoire. Donc, il invite les gens à suivre. Ces gens, ils ne savent pas. Celui qui ne voit pas les gens fumer, pourquoi il fume? Si jamais toi, tu n'entends pas parler du tout de la cigarette, est-ce que tu auras envie de fumer? Tu ne sais pas ce que c'est. Tu sais pas, donc tu peux pas. Mais si tu vois des gens, depuis j'étais petit, on voyait des gens fumer, on était curieux, hein, on les voyait, on pensait que c'était quelque chose de formidable, mais bon, il n'y avait rien dedans. Enfin, on voyait des gens fumer, etc. Quand tu vois, tu suis. Donc celui qui fait un péché, le problème, c'est pas juste le péché pour lui-même, c'est le fait qu'il entraîne avec lui des gens qui l'ont vu, qui l'a donné l'idée, qui l'a donné l'exemple. Et aussi l'inverse, il prend l'ithme de tous ceux qui l'ont suivi. Donc Dinada, il combat l'aspect ostentatoire du péché de façon générale. Et qu'il est fou qui va, je veux dire, fier de bled, même en France, tu vas pas trouver des gens qui vont faire la fornication comme ça devant quatre témoins ou devant la route. Ça n'existe même pas Fibilad al-Foussouk ou Bilad al-Aïtien. Comment tu veux que ça existe Fibilad al-Islam? Mais comme il y a des gens qui veulent toujours, il y a des gens toujours qui, les premiers qui veulent toujours, yani, casser les règles et les bonnes règles, l'Azogel, il a fait des limites. Et la limite, c'est que bon, celui qui tombe dans sa fornication avec quatre témoins, là, il est en train de détruire quoi? Pas lui-même. Il est en train de donner un mauvais exemple, à la communauté, etc. Et j'allais dire le problème de Zina et de les mal que ça fait. Ah, que l'insane, il sait même pas qui c'est son père ou sa mère, ou que l'insane, il est là dans la séparation, le mal que ça fait, il est tout seul, la psychologie, docteur Igor Poé, celui-là, il a été, parce qu'il est devenu un tueur, parce que quand il était enfant, il avait pas son père, ou là, il avait, tout ça, c'est dû à quoi? La structure familiale est la structure qui garantit la stabilité de la communauté, hein. Si on a des gens, les Kimangoulous, ils sont comme ça. Ils sont nés, ils ont ni parents, ils savent pas c'est quoi le hanan ta'al oum, c'est quoi la structure familiale. Yani, c'est normal que t'as appris, mais tu te dis, oui, mais, on a beaucoup de gens qui sont pas sur le droit chemin, on a beaucoup de malfaiteurs, on a beaucoup de gens qui tuent, pourquoi? Mais ça vient de quoi? Ça vient de l'éducation. Ça vient du fait qu'il n'y a pas la structure familiale. Et c'est pour ça que, dans les règles ici, dans la psychanalyse aussi, dans le règle, il te dit, voilà, la pire des familles est mieux que le meilleur des orphelinats. Alors, la famille, ça donne la structure l'insane, la cellule familiale, c'est elle qui fait la communauté, c'est elle qui fait la stabilité de la communauté. Et donc, comme on a dit, Anid Dintana, il est là, Inch'Allah, pour nous assurer le bonheur, soit à titre individuel, soit à titre communautaire, collectif, et on ne trouvera notre bonheur dans, nulle part autre que, Inch'Allah, dans cette religion, il faudrait qu'on apprenne et qu'on soit fier de ça, qu'on ait l'Izza. Et qu'on ne soit pas, comme on a dit, gens qui viennent et qui disent, oui, il y a la lapidation, il faudrait qu'on... Ça, c'est des règles. Sur le Coran, elles sont là pour protéger la communauté. Elles sont là parce qu'il y a un bien derrière. Et même au côté pratique, on ne trouve pas celui qui voit que celui qui vole, on lui coupe la main. Il n'y a plus de vol. Subhanallah al-Azim. Mais ça, ce n'est applicable que dans un cadre de communauté musulmane. Et là, c'est un cadre où on est loin. Que tu parles de quelque chose qu'on ne vit pas. Là, on est faible dans notre religion. On n'est pas encore arrivé au stade où on applique din, peut-être c'est un peu loin individuel ou dans sa famille. On n'est pas encore dans un stade où on l'applique bien dans le cadre collectif, sauf dans certains rares pays. Et donc de là, le fait est tel que effectivement, la position du faible, c'est toujours d'essayer de suivre le plus fort ou de se rabaisser devant celui qui est plus fort. Et ça, c'est le complexe de l'infériorité. Et il y a aussi le complexe de la supériorité. Le plus fort veut toujours imposer sa façon de voir et sa façon de vivre au plus faible.
C'est comme certains qui te disent, voilà, il veut t'apprendre dans ta religion ce que lui ne sait pas. Ça, ça ne fait pas partie de la religion, ça, alors que lui, il est loin complètement de cette religion. Je voulais aussi montrer la position de nos grands savants, ceux qui portent cette science, et l'adepte dans lequel ils s'en comptent et traitent des questions. J'étais tombé sur un article d'une réplique qu'a fait Cheikh Mnoubez, rahimahullah, contre un des écrits, une réponse, quand vous voyez Cheikh Mnoubez, Dr Bodri, sur certaines questions, et là on voit un petit peu comment les grands savants, Yanni et ceux, ils donnent le conseil et ils essaient de montrer la vérité avec sagesse. On lit cet essai-là, min Abdel Aziz ibn Baz, la fadila de l'Akh al-Mukarram, Mohamed Saïd Ramadan al-Bouti, waffaqahu Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تأملت ما ذكرتم في رسالتكم المؤرختين في رسالتيكم المؤرختين في 20 ربيع الآخر سنة 1406 كتاب 1986. وقد طرني كثيرا حرصكم على البحث عن الحق الذي هو ضالة المؤمن، ولا شك أن الحق لا يرتبط بالمذهبية كما أنه لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون به. Cheikh Mnoubez, il dit, il envoie cette lettre au Dr Bouti. Dr Bouti, il est connu. Et bon, il s'achouffe l'adab avec laquelle Yanni, le Cheikh Mnoubez, il parle. Il a dit, j'ai vu votre lettre. Et là-dessus, il y a des remarques. Moulahad al-Oula. Ma zakartum fi safhat 140 min al-kitab, wa huwa la mani'a min al-altamisa minhum al-baraka wal-khayr. وقصدكم بذلك أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني وأمثالهم. وقد أشكل عليكم أن يكون هذا من الشرك الأكبر، وذكرتم ما فعلته أم سليم وأم سلمة وأبو أيوب الأنصاري من التماس البركة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لأمرين. Donc là, il refuse ce que dit Al-Bouti dans le sens de dire que il y a tabarruk bi athar al-awliya. Ça, c'est quelque chose de grave dans l'Aqida. Et Cheikh Mnoubez, même devant cette chose qui est grave, il garde un langage qui est serein. Un langage qui est, et il lui dit, voilà ce que tu as présenté comme preuve, le fait qu'on peut, prendre les restes des gens qui sont pieux et là où ils sont passés, tabarruk, je ne sais pas en français comment on dit, il y a un terme, comme ceux qui font le Kaaba, il arrive le Kaaba et il plonge sur le sitar, là, les habits qu'il y a, alors il y en a, tu dis, les gens qui sont pieux, sûrs qui sont pieux, il faut que tu demandes le baraka, c'est-à-dire qu'un chef il passe, tu te frottes à lui, là où il a mis le pied, tu mets le pied, le wudu qu'il a fait, tu prends et tu te barakbais, je sais pas le terme en français, c'est comme l'eau bénite, l'eau qui touche le chef, elle devient bénite, donc il faut la boire. C'est un peu le sens. Et Cheikh Bouti, là-dessus, Bouti, il a dit, voilà, la preuve, c'est que les compagnons, ils ont fait de ça du prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là où il faisait le wudu, eux, ils suivaient les traces du wudu de la sallam. L'eau qui tombait, ils la prenaient. Le char qui était, les cheveux qui la sallam laissaient tomber, ils les prenaient, ils les gardaient. Mais donc, Bouti, il a pris ça comme preuve, comme quoi il a généralisé. Et cette généralisation, Cheikh Mnoubez, il a refusé. Parce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un cas qui est spécifique. C'est un cas spécial. On ne peut pas prendre le prophète comme, prendre d'autres comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, anna sahaba radiallahu anhum lam yaf'alu dhalika ma'a ghayrihi. Les compagnons du prophète, ils ont pris vraiment les traces du prophète pour la bénédiction, etc., le wudu, les cheveux, etc. Mais ils n'ont pas pris la bénédiction d'Abu Bakr Siddiq, ni celle de Omar ibn Khattab, malgré qu'ils étaient des gens qui étaient pieux. Le meilleur après le prophète, c'est Abu Bakr Siddiq. Et malgré ça, lorsqu'il est mort à Boxadir, les compagnons ne suivaient pas les. Ne suivaient pas de son temps, ni le wudu ta'ou, ni les cheveux ta'ou, ni le. Tu vois. Donc, c'est une preuve de l'action des compagnons. Ça, c'est quelque chose de spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh Al-Bazi dit wa anna sahaba radiallahu anhum, lam yaf'alu dhalika ma'a ghayrihi ka Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghayruhum min kibar as-sahaba. Wa law kana ghayruhu yuqasu alayhi la fa'alahu as-sahaba ma'a kibarihim. C'est-à-dire, donc, s'il y avait ça à faire, les compagnons, ils l'auraient fait avec les grands compagnons qui étaient avec eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attesté le paradis pour Abu Sa'd ibn al-Khattab. Donc ça, c'est des awliya Allah et on a les textes là-dessus. Et donc, malgré ça, les compagnons n'ont pas couru derrière la bénédiction de leur trace et de ce qu'ils laissent le legs derrière eux ou de ce qu'ils touchent, etc. وهذا يكفي دليلا على ولايتهم وصدقيتهم وقد أجمعت الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم شهادة لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يعلمون حقيقة أمره وخاتمة عمله وما دام لا يدرى ما يفعل ما يفعل الله به كيف يطلب منه البركة. Et deuxièmement, les gens que certains considèrent comme étant du jour ou là où etc., on n'a pas de texte là-dessus. On ne sait pas s'ils vont aller au paradis ou en enfer. Nul ne le sait. C'est Allah Azzawajal qui sait celui qui va au paradis, qui va en enfer. On ne peut pas juger un tel, il va aller au paradis, si on n'a pas de texte. Et si quelqu'un, dans son apparence, il paraît bien, on ne sait pas ce qu'il y a dans le fond. On ne sait pas. Des gens, ils montrent des choses pieuses, ils allent devant les gens, et quand ils sont tout seuls, ils font des mauvaises choses. Donc on ne peut pas juger, dire voilà celui-là je fais le Ataparak bi Atale, je ne sais pas, on n'a pas de certitude là-dessus qu'il est wali min awliya illah, on n'a pas de texte. Et malgré que les compagnons ils savaient qu'Abu Bakr Siddiq ou Omar ibn Khattab étaient les gens les plus élus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, ils n'ont pas pris leur trace pour faire là, pour se bénir de leur trace. يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مع أنه سيد ولد آدم وجاء بالخير كله من الله سبحانه ولمزيد فائدة أذكر بعض ما قاله يعني لا سيدي في التكست إلى أن نرى un peu la discussion calme avec preuve parce que le sunnah ce qui demande c'est la force de l'argument. يقول ولا شك أنا يسيت un peu une preuve que le Ibn Qayyim رحمه الله في تعليقه على الحديث في كتابه غزوة الأحزاب فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بالعكوف حول القبور حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى فتنة بالقبر ولو كان أهل الشرك والبدع يعلمون. Donc tout ça, le fitna qu'on voit dans nos nations, en fait de tomber dans le shirk, surtout dans beaucoup de pays qui sont éloignés de la langue arabe, qui sont éloignés de la langue du Coran, qui sont éloignés de la bonne pratique de la religion, où tu peux le raconter, c'est-à-dire où il y a beaucoup de choses qui prennent et qui pensent que ça fait partie de la religion, surtout concernant les gens qui sont pieux. Hein? Le shaitan il vient par ce chemin, tu dis quelqu'un, ça c'est un shirk, c'est un pieux, il a un grand rang d'Allah Azza wa Jal, il rentre dans l'Ithna, dans le Sana, et il lui donne des attributs divins. Alors, maintenant, ce jour, certains taurors qui suivent certains jours donnent des attributs à leur jour qui sont des attributs divins. Et tu lui dis, jure par Allah que tu n'as pas fait quelque chose, il peut jurer. Mais tu lui dis, jure par flemme. Ah, il te dit, moi, c'est des Abdel Khadr, je ne peux pas jurer par là. Il jure par Allah, hein, mais il ne jure pas par Sidi Abdel Khadr. Tu dis, si jamais je jure, ça c'est quoi? C'est du shirk à 100%. Là, on est dans une autoroute. Vraiment, c'est le danger, c'est le plus grand danger. Allah Azza wa Jalla n'a envoyé cette religion que pour que l'adoration, elle soit que pour lui, à 100%. Et pourtant, dans notre nation, on trouve des masses et des masses de gens qui suivent Sidi Flan ou Sidi Feltan, qui donnent des attributs à un tel, qui dit qu'il connaît le ghaïb, et qui dépasse même les règles simples d'Al-Din. Tel cheikh, il s'est marié 200 fois, 400 fois, pourquoi? Je lui ramène ma fille pour qu'il y ait baraka et tout. Les gens, ils vivent dans cela. Et derrière eux, il y a des gens qui profitent de leur ignorance, hein, et qui gardent le niveau d'ignorance parce que ça fait marcher leur intérêt. La hawla wa la quwwata illa billah. يقول ابن الشيخ نبات كذلك في نقاش مع البوذي: وأما ما أشرتم إليه من جهة الاحتفال بالموالد وأنه لا شك أنه بدعة إذا فهمت أنها عبادة. Ah, donc Bouti disait, il défendait un peu le Maulid, ceux qui fêtent le Maulid, parce qu'il dit bon, ça rentre pas dans l'adoration, c'est juste une fête, et c'est une fête qui est à côté de la religion, elle rentre pas dans la religion. يجيب الشيخ ابن باز رحمه الله فيقول: لا ريب أن المقيمين لحفلات الموالد يعتقدون أنها عبادة ويتقربون إلى الله بذلك. C'est-à-dire, il dit, ce qu'on constate dans la réalité, c'est que ceux qui font un mawalid, ils pensent que ça fait partie de l'islam. Sinon, à chaque fois quand tu prends un calendrier, il te cite les fêtes musulmanes, il te met l'Aïd Kibir ou l'Aïd Sahir, il te met là. Oui, il te met le Maulid, donc ça fait partie de la religion. Et là, c'est un calendrier musulman, donc ça fait partie du. C'est pas à l'extérieur, c'est pas une fête avec des capables de la fête pour un tel ou avec en dehors, non. Ça, c'est dans la croyance de beaucoup de musulmans, ça fait partie de la religion. وبذلك يعلم أنها بدعة بلا شك لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأذن فيها ولم يقرها ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم. Donc on a un consensus, إجماع des الصحابة qui n'ont pas fait cette fête. On a إجماع في الترك. Pourquoi on fait? On a إجماع dans le fait que les صحابة n'ont pas fait. Ils ont laissé ça. Ils ont délaissé cela. Ils n'ont pas fait cette fête. On a un consensus des compagnons et des trois générations qui sont venues après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de problème dans ça. Il n'y a pas de problème, parce qu'on aime le prophète, donc on fait ce qu'on veut vis-à-vis du prophète. Non. Si on ne fait pas le moulin, c'est parce qu'on aime le prophète, parce que le prophète nous a interdit de faire. Et c'est ça notre amour vis-à-vis du prophète. Si tu aimes quelqu'un, tu suis ce qu'il dit. Tu ne dis pas, j'aime un tel et tu dis, bon, on ne va pas là, tu vas. Tu lui dis, bon, je l'aime bien, mais bon, je ne suis pas ses ordres. C'est ça. Aimer, c'est ne pas suivre. Non. Aimer, c'est suivre. Je dis, le prophète n'a pas fait. Tu me dis, oui, mais moi, je l'aime bien. Ah, je l'aime fort. Et donc, je fais. Tu fais malgré qu'il te l'a interdit. Tu veux aimer le prophète comme tu le veux, toi. Pas comme le prophète, il l'aime. Il veut. C'est ça. Un musulman, nous, on veut comme on veut, nous. On aime le prophète, il faut qu'on fasse une fête comme on veut. C'est pas comme avait voulu le prophète ou comme avait Shara. Et c'est ça la différence. وهم خير القرون وأكمل الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الناس بالشرع المطهر واعلم الناس بالشرع المطهر. نعم. Alors que les compagnons c'était la génération qui a le mieux compris, la mieux pratiqué. Elle dit, ils n'ont pas fait ça, on n'est pas mieux qu'eux. Et la preuve. On n'a qu'à voir nos situations et leur situation. L'izzat al-islam de notre temps ou l'izzat al-islam de leur temps. Hein? De leur temps, l'islam, il était, masha'Allah, il a envahi le monde. On est envahi par le monde. Et on reste sur nos mauvaises habitudes. وَهَكَدَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ هذا لو سلمت من المنكرات الأخرى وأن لها السلامة مع ما غلب على أكثر النفوس من الجاهل والغلو. Il dit ces fêtes, même si on accepte le fait qu'il n'y a pas d'exagération dans ces fêtes-là, alors que la réalité c'est qu'il y a toujours de l'exagération. Il y a toujours des choses qui dépassent les règles de dîn et des fois les gens ils tombent même dans le shirk et certains qui vont dans le fait de faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des attributs divins. Comme dit le Boussaïri, « وَأَنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّحِ وَالْقَلَمِ. » Parce que dans ces fêtes-là, ils lisent le Bourda, et dans le Bourda, il y a des choses qui sont contraires aux règles de base de l'Aqida, comme quoi que l'Allah Azza wa Jal, il n'y a que lui qui connaît le ghaïb, l'invisible. Et dans le Bourda, dans ce bayt, qu'est-ce qu'il dit le Boussaïri ? Il dit « وَأَنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا » Parmi tes bienfaits, cette vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, et parmi ces sciences, la science de l'Ouh et du Qalam, c'est-à-dire ce qu'a écrit, tout ce qui s'est passé, l'Azza wa Jal, il a écrit le Qalam, il a dit tu écris, la plume, il lui a dit tu as écrit tout ce qui va se passer hein, jusqu'à la fin des temps. Donc, le Boussaïdi, nous voulons faire l'éloge du professeur Hassan, il a dit, parmi tes sciences, hein, c'est pas toute ta science, hein, c'est parmi tes sciences, tout ce qu'a écrit le Qalam. Tout ce qu'a écrit le Qalam, c'est toute la science, c'est elle. Et ça concerne ce que le Rasoul sallam savait et ce qu'il ne savait pas, etc. Alors que la règle qu'on sait, c'est que le Qulay alamou, même si c'est moi ou l'ard il raïba, il l'a. Ou là où on fait il raïba, il l'a alamou, il l'a où. Ou là où Allah Azza wa Jalla dit Rasoul sallam dans le Coran Karim, ou là où kuntu alamou l'raïb, la staktatu min al-khayr, ou même un sanisou. Ça c'est des règles de base, sur le Coran, c'est des règles, il ne faut pas, et malgré ça, il y a des règles de musulmans. Tu lui dis, ouais, tu dis, mais le Bouddha c'est bien, il a fait cette poésie dans le rêve, le prophète il est venu, il lui a donné, qui te dit que c'était pas Shaitan qui est venu? Oui, d'où t'as le fait qu'il est venu, il lui a donné avec la cape, le Bouddha, etc., c'est pour ça qu'il l'a appelé ainsi. Et il a fait, dans le Bouddha il y a des temps maîtres. Et en plus, il dit, ya Rasulallah, men astaris ou bihi. C'est-à-dire qu'il demande le refuge auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on ne peut demander refuge qu'auprès d'un. Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que cela, ça comporte l'exagération. L'exagération, c'est une des natures. C'est l'insan. L'insan, il exagère soit dans le moins, soit il exagère dans le plus. Et cette exagération dans le plus, c'est elle qui fait que, il y en a beaucoup d'entre eux, cette Ummah est tombée dans shirk, le fait de respecter l'Aulia, qui a dépassé ses limites. C'est-à-dire, il n'y a plus, t'as le Coran, t'as le verset du Coran, il est clair, le hadith, il est clair, ne fais pas, tu vois devant toi ce chef faire quelque chose d'interdit, il y en a, il le voit boire de l'alcool, il te dit non, lui il a dépassé le stade, hein, wa'abud rabbaka, et Allah Azza wa Jalla te dit wa'abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, et adore Allah Azza wa Jalla jusqu'à ce que l'yaqin il te vient, et ce chef là, il a l'yaqin, donc lui, il a plus d'interdit. La hawla wa la quwwata illa billah. On entend de cela, voilà, muslim, c'est tout, lui il te dit moi, subhanallah al-azim, c'est un grand mal vers lequel on ne tourne pas les fétanettes à l'information. Formation elle est là, Palestine, Israël, les Houds, etc., je ne sais pas quoi, Meshakit, alors que dans nos pays, comme beaucoup de pays musulmans, il y a shirk lui-même qui s'instaure, il y a des gens qui profitent de l'ignorance des musulmans et dont personne ne parle. Et ça, il vient, il te dit, Cheikh Hadash, je lui ramène l'argent pour qu'il donne le baraka. Il donne le baraka lui-même. Il dit, tu parce qu'il était pauvre. Tu donnes l'argent, il y a certains pays, et je dis pas, ils aiment bien, ils veulent quoi, j'aimerais bien rentrer dans l'islam, comme ça je vais devenir comme le Cheikh Antel, et lui, il a eu beaucoup d'argent. L'islam, c'est le synonyme de l'exploitation des populations. Et ça, c'est l'ignorance. Et beaucoup de nos pays, beaucoup de musulmans vivent dans cela, ils continuent à vivre dans cela. Je lui dis, d'où tu ramènes ça? Il te dit, voilà, tel Cheikh, il a vu le prophète. C'est ça, il m'a dit, Cheikh Antel, oui, il m'a dit, il a vu le prophète. Je lui dis, comment? Il m'a dit, ça fait deux siècles. Il l'a vu comment? Il m'a dit, comme je te vois. Je lui dis, ça veut dire, il est devenu un sahabi, c'est un sahabi du 18e siècle. Il n'a pas été, il n'est pas énuméré dans la liste des sahabas que les ulama ont cité. Il me dit non, j'ai dit mais comment tu crois ça, t'es un étudiant, je sais pas, c'est un étudiant sénégalais, je sais pas, il me dit, je suis étudiant, t'es avec les X et les Y, là, tu crois ça, si t'étais un vieux, un maqrej, etc., t'as pas eu de, on peut dire, hein, Shaitan il peut te faire avaler ça, mais toi t'es un intellectuel quand même, tu avales ça. Je lui dis, quelle est la preuve que, comment tu acceptes ça? Il m'a dit, inna Allah ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais c'est Allah Azza wa Jalla ala kulli shay'in qadir. Mais c'est le même, c'est Allah Azza wa Jalla qui a dit, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ala kulli shay'in qadir, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui tu peux trouver un prophète et je dis, pourquoi il y a pas de prophète après le prophète? Tu me dis, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Tu ramènes des textes d'ordre général dans un cadre particulier auquel ils sont pas destinés. Ah, et tout ça, ça prouve la faiblesse qu'on a quand on est ignorant. La faiblesse dans laquelle on peut vivre, et qu'est-ce qu'on peut gober, pas avaler, gober, c'est-à-dire des choses. Yani, normalement, ça se mange pas, c'est pas possible. Il faut que tu ouvres bien la bouche ou ils te l'envoient. Ils acceptent des choses incroyables, qui sont contre les textes, contre le Coran et contre la Sunna. Quand tu lui dis ça, ce que tu es en train de faire,
dit le hadith que tu suis ou ton chir ou je sais pas quoi, ça c'est contraire au texte du Coran et de la Sunna. Il y a que le prophète qui connaît le ghaib, il y a que le prophète qui a ses attributs, il y a qu'Allah Azza wa Jal qui a tel ou tel attribut. Et il te dit, moi j'ai vécu comme ça. Ça c'est un héritage, c'est dans ma famille. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أن سوي l'héritage qu'on a reçu, même si c'est contre la vérité, même si ça je rentre en enfer avec mes ancêtres que de rentrer en paradis avec toi. فهمت يعني c'est la conclusion de ce qu'il avance. فهمت يا ربي يحفظنا وإياكم ووفقنا وإياكم للخير. On voit un petit peu, mais je suis venu cette histoire de Cheikh Mubaz Rahimahullah pour montrer à nos frères Yani de des fois de voir, on est dans une période où il y a beaucoup d'éloignement de la religion et on voit des choses qui choquent, des gens qui, de beaucoup de nos frères qui sont dans le bid'ah, dans le shirk, mais que cela nous fait, il faut pas que ça nous fasse perdre notre équilibre dans le fait de donner le bon conseil et d'essayer de voir le bien, de faire le sujet, le bien qu'il y a dans nos frères, pour essayer de les orienter avec cela vers le droit chemin. Hein? On a des gens, peut-être qu'on a la vérité, mais il y en a qui sont durs dans le fait d'essayer de montrer cette vérité aux autres. Il faut qu'on la montre avec quand on appelle à la sunna, il faut qu'on appelle à la sunna avec la sunna. C'est-à-dire que la méthodologie, ça fait partie de la sunna en elle-même. C'est pas parce que tu as vu une sunna que tu dois faire une bid'a pour... ou que tu dois faire quelque chose qui est contre les textes, ou que tu vas faire quelque chose qui est contre la sagesse dans le da'wah. Une sainte a vu, il a vécu 40 ans avec des choses. Il y a des gens, ils croient à tout et n'importe quoi, effectivement. Mais cela n'empêche pas c'est-à-dire de relativiser certains manquaires par rapport à certains biais. Ici en France, tu ne vas pas te comporter mais avec un nef, comme si tu étais en Arabie Saoudite ou si tu étais dans un pays musulman. C'est la France. Il y a des gens, ils viennent, ils savent même pas les bases des choses. Quand on entend quelqu'un, yani déjà, il parle en langue arabe, on est étonné, on se dit, ah, celui-là, il parle en arabe, on voit des enfants parler en arabe, on se dit, oh, machallah, c'est bizarre. On est loin, donc, fier de la loin, beaucoup de musulmans, surtout qui prient avec nous, ils tombent facilement dans des choses qui sont considérées comme des bidars ou considérées comme, ils rentrent des fois dans le chiquette, ils savent pas. Mais, il faudrait exploiter la bonne intention que quand ces gens, parce qu'ils font partie de l'ensemble des musulmans, qui sont, inchallah, au paradis, il faut essayer d'exploiter cette bonne intention, la bonne intention qu'il a, avec la bonne manière avec laquelle tu lui présentes, inchallah, din, pour essayer de le ramener vers l'haq. La plus grande bataille, une des grandes batailles qu'on a perdu aujourd'hui, c'est le fait de donner le bon exemple. Et c'est pour ça que ceux qui veulent montrer l'islam comme une image sanguinaire, ils insistent. Ils insistent sur cela. Dès qu'ils ont l'occasion, voilà, chauffe l'islam là-bas, ils ont fait un attentat, ils ont fait des bombes, ils ont tué tout. Comme ça, les gens, dans leur tête, celui qui a l'image de la sunna, c'est un sanguinaire, il faut qu'il l'éloigne, parce qu'ils savent que la vérité, l'argumentation de la vérité, il n'y a rien qui peut être contre. Quand il y a une vérité qui vient, même si tu n'es pas convaincu, mais quand tu l'entends, tu sais que c'est vrai. Même si tu dis, ouais, ben, je suis pas d'accord, mais bon, tu sais que cet argument, c'est la vérité. La vérité, quand elle vient, elle détruit tout sur son passage. L'argumentation, c'est pour ça que l'islam, quand il y a sujet, quand il appelle à la discussion, c'est lui qui gagne. Celui qui gagne parce que c'est lui qui, c'est la vérité. Il n'y a rien qui lui fait face. Quand il y a des gens qui le portent en connaissance de cause, qui portent cette science, et c'est de là l'importance de cette science, et surtout, dans ce pays-là, l'islam, yani, il porte l'ilm, il a cette faveur de pouvoir transmettre cette religion et transmettre la bonne compréhension et la bonne pratique. Rabbi yahfadna wa iyyakum. Je m'excuse de m'être un petit peu attardé. Subhanakallahu wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. S'il n'y a pas de questions, on clôture.